Bonjour, je suis Anaïs Nour Benlachab. Je suis compositrice et musicienne. Je suis française, j'ai étudié ici à Toulouse et actuellement j'habite à Berlin où je poursuis mes études en master de composition à la Haute École de Berlin. Alors, c'est vrai que moi ça m'intéresse beaucoup de croiser les arts entre eux. Bien sûr, moi j'ai étudié la musique comme matière dominante, on va dire, mais j'ai aussi étudié la danse et la peinture. Et ça nourrit absolument toutes mes créations, en fait. Et même pour les œuvres qui sont simplement musicales, il y a toujours une influence ou quelque chose qui vient d'un de ces autres arts, quoi. Pour moi, c'est important. Ça apporte de la richesse, en fait, et de l'ouverture à la musique, je trouve. J'ai commencé mes études depuis toute petite à Montpellier, où j'ai fait le conservatoire là-bas. Et c'est après le bac que je suis venue ici à Toulouse pour poursuivre à l'université et au conservatoire, où j'ai suivi un cursus de composition. Composition électroacoustique, instrumentale, direction d'orchestre un peu aussi. Et voilà, et toutes les classes bien sûr complémentaires qu'il est nécessaire de faire. J'ai commencé par la musique classique, mais j'ai très très vite dévié vers le jazz, si on peut appeler ça une déviation, je ne suis pas sûre. Mais... Et j'ai fait beaucoup de jazz aussi, notamment avec le saxophoniste Abdou Salim à Montpellier, qui est un grand saxophoniste de jazz. J'ai été dans son groupe pendant 3 ans et parallèlement j'ai étudié la guitare classique. Donc j'ai quand même toujours eu 2 casquettes musicales avec une approche de l'improvisation dès assez jeune. Bon, maintenant je pratique plus tellement le saxophone, mais bon, ça m'a quand même donné une approche de l'improvisation assez solide et dont je me sers d'ailleurs très régulièrement dans mes pièces et qui pour moi représente une bonne partie de mon travail. Influence en tout cas, une grosse influence dans mon travail. Ben alors, j'ai découvert la musique acousmatique ici, à Toulouse. Et dès que j'ai commencé, ça m'a passionnée. Parce que c'est vraiment... ça donne une liberté absolument incroyable au niveau de la création. Parce qu'on crée nos propres sons pour pouvoir ensuite les recomposer, maîtriser l'espace. C'est une liberté incroyable et infini en fait, parce que tous les sons qui nous entourent peuvent être exploités de manière musicale. Et surtout, c'est une pensée de la musique qui est totalement innovante par rapport à la musique classique qu'on apprend depuis tout petit, parce qu'on sort du champ d'écoute frontale, du concert d'écoute frontale. Il n'y a pas le public et en face le concert. On est plongé à l'intérieur du son dans un acousmonium, donc un orchestre haut-parleur. Et ça, c'est fantastique. C'est la première fois qu'on fait cette expérience. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et ça me paraît difficile de ne pas être passionnée par ça, par la suite.
Aussi l'appeler la musique concrète, ou je me trompe, ou c'est pas exactement la même chose?
Si, on peut l'appeler la musique concrète. En fait, ça s'appelle musique concrète en opposition à une musique qui serait plus abstraite, en fait, qui partirait de l'écriture des notes sur une partition, qui est en fait totalement... C'est une abstraction, parce qu'on imagine les sons, on connaît les sons à l'avance, et on les imagine, donc on peut écrire la partition à l'avance. Et par exemple, un compositeur qui écrit une partition, et quand il lit la partition dans sa tête, il peut entendre les sons, tandis que là, avec la musique acousmatique, on est obligé de faire l'expérience des sons pour pouvoir composer, parce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance que... Si je casse une tasse dans cette pièce, ce sera un son magnifique qui ira très bien à cet endroit dans la composition. Donc on fait l'expérience des sons en amont de la composition et c'est un passage obligé, donc c'est assez fantastique aussi, quoi. C'est ce que cette liberté, elle est aussi due au hasard, où il y a une grande part de hasard. Bon non, je dis pas que la composition acousmatique est due totalement au hasard, mais il y a quand même cet aspect qui entre en jeu et qui rend la chose très complexe et magnifique en fait. Ben alors j'ai composé une pièce mixte pour 2 accordéons et électronique. Donc là, c'est vraiment on parle de musique mixte parce que ça allie écriture instrumentale et son fixé, donc bande sur son fixé, musique électronique. Mais c'est une seule musique, donc voilà, c'est l'un nourrit l'autre. Et pour moi, il n'y a pas de l'un qui accompagne l'autre ou l'autre qui accompagne l'un. C'est vraiment, en fait, ça développe une forme d'écoute unique. Et qui associe 2 formes d'écoute complètement différentes et 2 temporalités différentes. Parce que quand on écoute une musique purement acousmatique, rien que le fait qu'il n'y ait pas de présence humaine sur la scène change complètement notre manière d'écouter, en fait. et vice-versa. Quand il n'y a pas de haut-parleur sur scène, ou de... on s'attend à quelque chose. Par exemple, un accordéon, on sait comment ça sonne à peu près. Enfin, bon, ça dépend d'où on vient, mais quand même, en général, oui, on sait. Et on a quand même des attentes. Donc le haut-parleur vient déstabiliser aussi cette attente. On ne sait pas qu'est-ce qui peut sortir d'un haut-parleur. Et donc, ces deux manières d'écouter, on est obligé, nous, quand on compose, de les prendre en compte et d'en créer une nouvelle, en fait, qui est capable de rassembler les deux. Et pour faire... Je ne sais pas si je suis très claire.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu... Donc vous êtes compositrice et vous avez écrit pour différents instruments, notamment pour des castagnettes gnawa. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu?
Oui. Alors, en fait, donc, les castagnettes gnawa, les khalkhavat... Non, c'était très bien. Alors, en fait, c'est des instruments traditionnels qui viennent du peuple gnawa. Et donc, c'est un peuple qui habite l'Afrique du Nord et qui vient à la base d'Afrique subsaharienne et que moi j'ai rencontré au Maroc en fait, parce que j'ai des origines marocaines, donc une partie de ma famille là-bas, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler un petit peu avec eux, et ça m'a passionnée. Leur musique me passionne parce que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre ici, même au niveau des musiques traditionnelles bien sûr. Et c'est une musique complètement orale, donc elle n'est pas écrite de manière traditionnelle. Et c'est ça aussi qui m'a passionnée, parce que moi, j'étais très loin des musiques entièrement de tradition orale. J'avais jamais vraiment vu écouter de près ou essayé de comprendre de près ces musiques-là. Je sais qu'il y en a aussi en Europe, bien sûr. Et donc, j'ai été emballée quoi, par cette musique, et notamment par cet instrument qui représente pour moi... à la fois la complexité et la simplicité, parce qu'il s'agit de deux bouts de fer qu'on cogne les uns contre les autres, et ça crée une musique absolument fantastique. Voilà. Et c'est vrai que j'ai composé pour des instruments qui sont très complexes jusque-là, où le piano, l'accordéon, c'est quand même des systèmes très complexes, très élaborés au final. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait que cette musique me passionne autant, que je puisse écouter pendant des heures des bouts de fer qui s'entrechoquent de cette manière, et avec une... Bon, bien sûr, les musiciens sont fantastiques, hein, c'est ça la réponse, mais... Et du coup, je me suis un peu lancée comme un espèce de défi de... Est-ce que c'est bien de savoir faire des musiques avec des instruments très compliqués, mais est-ce qu'avec deux bouts de fer et... et voilà. Et bon, et bien sûr, des superbes instrumentistes, est-ce que je peux... réussir à créer quelque chose quoi qui me convienne, qui soit un peu intéressant, qui...
Quand on travaille, alors ma question est volontairement un peu provocatrice, mais est-ce que quand on travaille avec des instruments de la musique traditionnelle, on peut inventer quelque chose, ou est-ce qu'on a l'impression que tout a déjà été fait?
Ah, alors bon, moi déjà, je pense que je fais la différence entre musique traditionnelle, instrument traditionnel, enfin l'utilisation qu'on en fait. Parce qu'on peut faire, je pense qu'on peut faire aussi de la musique traditionnelle avec peut-être des instruments non traditionnels, je sais pas. Ça arrive de temps en temps, enfin il y a quand même des croisements qui se font, tout ça. Donc moi j'ai aucune prétention à ce niveau-là, je pense pas que la musique que j'ai faite soit une musique traditionnelle, pas du tout. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de récupérer peut-être, enfin pas de récupérer, mais d'essayer de comprendre l'utilisation qui en est faite en musique traditionnelle. Et moi, c'est comme ça que j'ai procédé. En tout cas, j'ai cherché à étudier vraiment cet instrument. Je n'ai pas du tout recopié la musique traditionnelle, mais par contre, j'ai largement pris inspiration, et justement pour m'en servir, pour la décaler au final et pour la rendre, pour me l'approprier. Et ça n'a plus rien à voir d'ailleurs avec la musique traditionnelle des Gnawa. De toute façon, même si je voulais, je ne serais pas arrivée. Donc voilà. Voilà. Mais il y a quand même une forte inspiration, et ça aurait été difficile pour moi de séparer complètement l'instrument de son histoire et de la manière dont il est utilisé. Et c'est ça que je trouve intéressant justement, c'est de partir de là et puis d'aller autre part au final. Et puis avec aussi ma propre culture musicale et mon propre vécu.
Votre intention aussi.
Voilà, exactement.
Vous avez un thème qui revient régulièrement, c'est l'exil.
Ah oui, alors ça, j'ai travaillé sur... Bon, je trouve ça très intéressant comme thème, et c'est très très actuel surtout. Parce que dans nos sociétés, bon, il y a beaucoup de, là en ce moment, de cas très graves, quoi, d'exil, de choses qui se passent, qui sont très touchantes, je pense, et dont l'humanité est absolument foudroyante. Donc ça me touche beaucoup déjà, comme la vie la plupart des gens. Et en plus de ça, j'ai travaillé sur des textes d'Ovide, en fait. Et c'est aussi ça qui m'a menée sur ce terrain, et notamment sur le texte Tristesse, qui a été traduit il n'y a pas longtemps par un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Lévrier, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et j'ai beaucoup échangé avec lui. J'ai étudié un peu au vide. Ouais, je suis assez modeste sur ce point-là parce que c'est quand même une œuvre colossale. Et ça m'a vraiment passionnée de travailler sur ce thème-là. Parce que bon, c'est quand même des textes qui sont très très vieux maintenant. 2000 ans exactement, parce que c'est l'anniversaire de Ovid cette année. Et voilà, de voir à quel point des textes aussi anciens ont une résonance plus qu'actuelle de nos jours et qu'au final, les êtres humains, bon ben voilà, on peut...
Et justement, on parlait de tradition orale, est-ce que dans l'exil, justement, c'est parce qu'on emmène sa culture, peut-être ses traditions, puis sa musique ?
Ah, dans l'exil, je sais pas. Parce que bon, on emmène aussi les livres, je pense qu'Ovid a emmené ses livres, donc bon, beaucoup d'écriture aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on emmène sa langue, et que moi, c'est quelque chose qui m'a intéressée, qui est très présent dans le texte d'Ovid, c'est la perte du langage, du rapport avec le langage, parce que quand il arrive sur la Nouvelle Terre, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il l'appelle barbare. Et c'est ça la langue des barbares, c'est celle des étrangers qu'on ne comprend pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de le déracinement, en fait, qui vient aussi, qui prend vraiment corps dans la langue, quoi. Et le fait de plus comprendre les gens autour de nous, de plus avoir de moyens de communication, c'est quand même quelque chose de très dur. Au-delà du fait de perdre tous ses parents, tous ses amis, toutes ses connaissances, tous ses repères, mais de ne plus être compris, en fait, et de plus pouvoir être compris. C'est comme être face à un mur. Et bon, je pense que déjà pour les gens qui choisissent de partir, pour n'importe quelle raison, c'est très difficile, mais pour les gens qui y sont forcés, je pense que ça doit vraiment être quelque chose de très... Et ça m'a beaucoup intéressée, j'ai travaillé avec cette pièce, ça sera sur la perte du langage et tout ça, à partir d'un texte d'Ovid.
Une rencontre déterminante qui vous a dit « Ah ouais, moi, je vais être compositrice
». C'est mon professeur de composition Bertrand Dubedou, j'espère qu'il va entendre cette interview. Parce que je me suis dirigée vers la composition de manière naturelle, mais sans me dire que j'en ferai mes études principales, mon métier peut-être, j'espère, si ça continue. Ainsi. Et c'est vrai que au bout d'un an, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Bien sûr, avec des croisements et des... J'ai pas envie de travailler seulement la musique. En réalité, j'ai envie de travailler avec beaucoup d'autres choses, avec le théâtre, avec de la danse. J'ai vraiment envie de croiser les arts et d'apprendre un maximum sur l'art, en général. Parce que c'est ça qui m'intéresse plus, au final, que de faire que de la musique.